Lors de l'opération de capture de la gouttelette, la formation de la flotte unie se plaça à une distance de 1000 km de la cible, conformément à un calcul rigoureusement établi. Plusieurs hypothèses avaient été émises concernant la manière avec laquelle la gouttelette risquait de s'autodétruire, mais celle qui produirait le maximum d'énergie serait une autodestruction par annihilation d'antimatière. La masse de la gouttelette étant inférieure à 10 tonnes, l'explosion d'énergie la plus forte à prendre en compte serait produite par l'annihilation respective de 5 tonnes de matière et 5 d'antimatière. Si un tel phénomène avait lieu sur Terre, il suffirait à détruire toute vie à la surface du globe, mais dans l'espace, cette énergie serait libérée sous la forme de radiation lumineuse. Pour les vaisseaux interstellaires parés à faire face à de puissantes radiations, 1000 km était une bonne marge de sécurité. L'opération de capture serait menée par un petit appareil sans pilote appelé le mante religieuse. En temps ordinaire, le mante religieuse avait pour mission principale de collecter des spécimens de minéraux dans la ceinture d'astéroïdes. Il possédait en outre un avantage certain, il était équipé d'un long bras mécanique. Au début de l'opération, le mante religieuse dépassa la ligne de 500 km définie par l'ancien vaisseau de surveillance, puis il amorça avec précaution son approche de la cible. Sa vitesse de vol était très lente et il s'arrêtait pendant quelques minutes après chaque avancée de 50 km, de manière à ce que le système de surveillance omnidirectionnel derrière lui puisse procéder à un examen complet de la cible et vérifier qu'aucune anomalie n'avait été détectée avant de continuer à avancer. À une distance de 1000 km, la flotte unie se déplaçait à une vitesse synchrone avec celle de la gouttelette. La majorité des vaisseaux avaient éteint leurs moteurs à fusion et planaient paisiblement dans l'espace. Leurs énormes coques métalliques reflétaient les faibles rayons du soleil. Les vaisseaux ressemblaient à des cités spatiales abandonnées, ou bien aux mégalithes antiques et silencieux de Stonehenge. Les 1 200 000 membres de la flotte retenaient leur respiration, tandis qu'ils observaient le court voyage du mante religieuse. Les images que voyait la flotte mettaient 3 heures à la vitesse de la lumière pour atteindre la Terre, où 3 milliards d'êtres humains attendaient eux aussi en retenant leur respiration. À cet instant, toute activité avait cessé dans le monde des hommes. On ne voyait plus de voitures volantes entre les énormes arbres. Toutes les cités souterraines étaient enveloppées d'une chape de silence. Même le réseau Internet, qui n'avait cessé d'être saturé depuis sa naissance, 3 siècles plus tôt, avait été déserté. Toutes les données transmises sur Terre étaient ces images provenant d'un lieu situé à 20 unités astronomiques de là. Le mante religieuse avançait par intermittence. En 1 heure et demie, c'était comme s'il n'avait franchi qu'un seul pas à l'échelle spatiale. Il finit cependant par s'arrêter à une distance de 50 mètres de la cible. À cet instant, on pouvait clairement voir son reflet déformé par la surface de mercure de la gouttelette. Les nombreux équipements que le vaisseau avait emportés à son bord commencèrent leur scan et confirmèrent des hypothèses qui avaient jusque-là été émises sur la base d'observations plus lointaines. La température à la surface de la gouttelette était encore plus basse que celle de l'espace. Elle approchait du zéro absolu. Les scientifiques avaient supposé qu'elle était pourvue d'un puissant système réfrigérant, mais les instruments utilisés par le mante religieuse ne parvinrent pas à sonder une quelconque structure intérieure. Le mante religieuse allongea son bras mécanique vers la cible. Là encore, par à-coup, mais son système de surveillance ne releva rien d'anormal. Ce processus pendant lequel les hommes se rongeaient d'angoisse et d'impatience se poursuivit pendant 1 demi-heure jusqu'à ce que l'extrémité du bras mécanique atteignît enfin la cible. Il entra ensuite en contact avec ce corps venu d'un monde distant de 4 années-lumière qui venait d'effectuer un voyage de 200 ans. Lorsque les 6 doigts du bras mécanique eurent fermement agrippé la gouttelette, un frisson parcourut en même temps le million de cœurs des membres de la flotte. 3 heures plus tard, ce même frisson se propagerait dans ceux des 3 milliards d'habitants de la Terre. Une fois la gouttelette saisie, le bras attendit calmement pendant encore 10 minutes. La cible n'ayant eu aucune réaction anormale, il commença donc à se replier. De cette scène naquit un étrange contraste. Le bras mécanique était de toute évidence conçu pour une utilisation fonctionnelle, et son cadre métallique robuste et sa structure hydraulique révélaient une nature technologique complexe et un sens industriel grossier. Par comparaison, la gouttelette avait une forme parfaite. Celle d'une goutte solide, lisse et étincelante, dont le raffinement dissipait tout contenu technologique ou fonctionnel. Elle témoignait d'une grâce et d'un anticonformisme relevant de l'art et de la philosophie. En saisissant la gouttelette avec ses griffes d'acier, le bras mécanique était comme la main poilue d'un homme préhistorique s'emparant d'une perle. La gouttelette avait l'air si fragile, comme un thermos en verre dans l'espace. On craignit qu'elle ne se brisât entre les serres du bras, mais cela n'arriva pas, et celui-ci put se replier. Le processus dura encore une demi-heure jusqu'à ce que la gouttelette se retrouve enfin sur le pont principal du mante religieuse. Puis les deux cloisons de la cabine se rapprochèrent lentement. Si la cible devait s'autodétruire, le moment le plus probable serait celui-ci. La flotte et, après elle, le monde terrestre attendirent en silence. Et dans ce silence, on pouvait presque entendre le bruit de l'écoulement du temps à travers l'espace. 2 heures passèrent. Rien n'était arrivé. Le fait que la gouttelette ne se fût pas autodétruite apporta la preuve ultime à l'hypothèse formulée par les humains. Si la gouttelette avait vraiment été une sonde militaire, elle se serait certainement sabordée après être tombée dans les mains de l'ennemi. On était maintenant sûr qu'il s'agissait d'un cadeau offert à l'humanité par le monde trisolarien, un symbole de paix, bien que difficilement intelligible pour l'esprit humain. Ce fut une nouvelle éruption de joie, mais cette fois-ci, les festivités ne furent pas aussi frénétiques et débridées que les jours précédents, car la fin de la guerre et la victoire des hommes n'étaient déjà plus des surprises. Dans le pire des cas, même si les négociations échouaient et que la guerre reprenait, l'homme serait forcément le dernier vainqueur. La majestueuse apparition de la flotte unie dans l'espace avait donné aux masses humaines une impression visuelle de toute puissance. À présent, la civilisation humaine débordait d'une confiance qui lui permettait de faire face sereinement à toutes sortes d'ennemis. Avec l'arrivée de la gouttelette, les sentiments des hommes vis-à-vis du monde de Trisolaris commencèrent à changer. Un nombre croissant d'entre eux prenaient conscience que l'espace qui avait entrepris ce périlleux périple vers le système solaire possédait une grandiose civilisation. Elle avait subi une alternance de plus de 200 catastrophes, mais elle avait survécu grâce à une ténacité inimaginable pour les hommes. Si les Trisolariens avaient entamé ce voyage long et pénible de 4 années-lumière dans l'espace, c'était à la recherche d'un soleil stable, d'un nouveau foyer où assurer leur survie. De l'hostilité et de la haine, les sentiments du grand public pour Trisolaris commencèrent à se muer en compassion, en pitié et en respect. L'humanité prit dans le même temps conscience d'une autre réalité. La flotte trisolarienne avait envoyé ses gouttelettes il y a déjà 2 siècles, et les hommes ne comprenaient que maintenant leur véritable signification. C'était sans aucun doute la preuve d'une part de la discrétion extrême des trisolariens, et d'autre part de la brutalité humaine, dont l'esprit était distordu par sa propre histoire sanglante. Un sondage rapidement lancé sur Internet montra que le programme Rayon de Soleil récoltait désormais des soutiens croissants. Et bon nombre des personnes interrogées supportaient même maintenant le plan de protection qui proposait de faire de la planète Mars le nouveau lieu de vie des Trisolariens. Les Nations Unies et le Comité conjoint de la flotte solaire accélérèrent le travail de préparation des négociations de paix. Les deux sphères réfléchissaient à la constitution d'une délégation humaine unifiée. Tout cela arriva le jour même où la gouttelette avait été capturée. Ce qui émouvait pourtant le plus la population n'était pas la réalité qu'ils avaient devant les yeux, mais l'embryon naissant d'un futur radieux. Quel genre de paradis deviendrait le système solaire lorsque la technologie trisolarienne et la puissance humaine auraient fusionné ? de l'autre côté du Soleil, à une distance à peu près égale, le sélection naturelle naviguait silencieusement à 1/100 de la vitesse de la lumière. La nouvelle est arrivée. La gouttelette ne s'est pas autodétruite après sa capture, dit donc Fang Yonsu à Chang Beiyei. Qu'est-ce qu'une gouttelette? Demanda Chang Beiyei. Donc Fang Yonsu et lui s'observaient, toujours séparés par la cloison transparente de la cabine. Son teint était hâve, mais son uniforme était soigné. La sonde trisolarienne. Nous avons maintenant la confirmation que c'est un cadeau offert à l'humanité, le signe que Trisolaris implore la paix.
Ah oui? Tant mieux.
On dirait que vous n'en avez rien à faire.
Chang Beiyei ne répondit pas et posa des deux mains son carnet devant lui.
J'ai fini d'écrire.
Puis il remit son crayon dans la poche de son uniforme.
Alors vous pouvez remettre les pouvoirs de commandement du sélection naturel?
Oui, mais je dois d'abord savoir ce que vous comptez faire une fois que vous les aurez récupérés.
Ralentir.
Et laisser les vaisseaux de poursuite vous rejoindre?
Oui.
Les combustibles de fusion nucléaire ne nous permettent pas de faire le voyage du retour. Il nous faut nous ravitailler avant de retourner dans le système solaire. Cependant, les vaisseaux lancés à notre poursuite ne disposent pas d'assez de combustible pour nous permettre de faire le plein. Ensemble, ces 6 vaisseaux ont un tonnage correspondant seulement à la moitié de celui du sélection naturel. Leur accélération est pour l'instant de 5% de la vitesse de la lumière, puis ils connaîtront une décélération de même ampleur. Leurs combustibles leur permettront tout juste de rentrer. Par conséquent, les membres de l'équipage du sélection naturel devront embarquer sur les vaisseaux de poursuite pour retourner dans le système solaire. Plus tard, d'autres vaisseaux prendront suffisamment de combustible à leur bord pour rattraper le sélection naturel et le ramener à la base, mais cela prendra du temps. Avant de partir, nous devons nous efforcer de ralentir au maximum pour réduire le temps que prendra l'opération.
Dongfang, il ne faut pas ralentir.
Pourquoi?
La décélération consommera le reste des combustibles du sélection naturel. Nous ne pouvons pas devenir un vaisseau sans énergie. Personne ne sait ce qui se passera dans le futur. En tant que commandante, vous devez garder cela à l'esprit.
Que voulez-vous qu'il se passe? L'avenir est déjà limpide. La guerre va s'achever. L'humanité va remporter la victoire. Et il sera prouvé que vous vous étiez trompé sur toute la ligne.
En la voyant ainsi s'emporter, Chang Beiyei lui sourit. C'était comme s'il voulait l'attendrir. Le regard qu'il posait sur elle était empreint d'une douceur qu'elle n'avait jamais connue. Elle en fut bouleversée. Elle avait du mal à croire au défaitisme de Chang Beiyei et le soupçonnait d'avoir un autre but. Elle s'interrogeait même sur sa santé mentale. Mais malgré tout, sans qu'elle en connût la raison, elle avait pour lui un attachement sentimental. Elle avait quitté son père alors qu'elle n'était qu'une enfant, ce qui était loin d'être extraordinaire à cette époque, car l'amour paternel était déjà quelque chose de suranné. Pourtant, ce qu'elle avait ressenti chez ce militaire vieux de 2 siècles y ressemblait.
« Dongfang, continua Chang Beiyei, je viens d'un âge troublé, je suis un homme réaliste. Tout ce que je sais, c'est que l'ennemi existe encore et qu'il s'approche du système solaire. » En tant que militaire disposant de cette information, je ne pourrai me réjouir que quand la paix sera acquise. Ne ralentissez pas. C'est la condition pour que je vous transfère les pouvoirs de commandement du vaisseau. Bien sûr, je ne peux que vous croire sur parole. Je promets que le sélection naturel ne décélérera pas.
Chang Beiyei se tourna et plana jusqu'à l'interface suspendue, d'où il fit apparaître celle du système de commandement. Il entra son mot de passe et, après une petite série de manœuvres, il éteignit l'interface.
Les pouvoirs de commandement du sélection naturel vous ont été transférés. Le mot de passe est le même.
Marlborough, dit Chang Beiyei sans se retourner. Donc Fang fit apparaître l'interface devant elle et put rapidement confirmer que Chang Beiyei n'avait pas menti.
Merci.
Toutefois, je vous conseille pour l'instant de ne pas sortir de votre cabine et de ne pas ouvrir la porte. L'équipage est en train de se réveiller de son état de mer profonde et j'ai peur qu'il ne vous traite avec violence.
Qu'il me fasse subir le supplice de la planche ?
En voyant la perplexité de Dongfang Yonsu, Chang Beiyei sourit encore.
« Oh, c'est un vieux châtiment qu'on faisait subir aux traîtres sur les navires des temps anciens. S'il avait subsisté jusqu'à aujourd'hui, un criminel comme moi aurait certainement été jeté par-dessus bord. Allez, j'ai moi aussi envie d'être seul. »
La navette qui décolla du Kantoum paraissait aussi petite qu'une voiture sortant d'une ville. Les rayons de son moteur n'illuminaient qu'une infime partie de l'immense coque du vaisseau-mère, comme une bougie au pied d'une falaise. Lentement, elle glissa hors de l'ombre du Kantoum vers la lumière du soleil, la tuyère de son moteur scintillant comme une luciole, puis elle commença son vol vers la Gouttelette, à 1000 kilomètres de là. Le petit groupe d'expédition était constitué de 4 membres. Outre Ding Yi et Si Tsi, se trouvaient également 2 officiers des flottes spatiales européennes et nord-américaines, un major et un capitaine. À travers le hublot, Ding Yi jeta un coup d'œil en arrière vers la formation de la flotte qui s'éloignait peu à peu. Le Kantoum, situé dans un angle, paraissait énorme vu d'ici, mais son voisin, le nuage, était si petit qu'on pouvait tout juste en discerner les contours. Plus loin, les autres vaisseaux de la formation n'étaient plus dans son champ de vision qu'une rangée de points. Ding Yi savait que la longueur et la largeur de cette formation en rectangle étaient respectivement composées de rangs de 100 et 20 vaisseaux. 15 autres appareils, en réserve, manœuvraient pour leur part en dehors de la formation. Il les compta dans la longueur, mais ne put en dénombrer que 30. Au-delà, c'est-à-dire à une distance de 600 kilomètres, il ne les voyait plus clairement. C'était la même chose verticalement. En regardant le côté le plus court de la formation, il ne pouvait voir au mieux les vaisseaux lointains que sous la forme de points lumineux troubles qu'il était difficile de distinguer du fond d'étoiles. Ce n'était que lorsque certains allumaient leur moteur que la flotte était visible à l'œil nu. Pour Ding Yi, cette formation était une matrice de 100 par 20. Il imagina ensuite une autre matrice qui se multipliait avec elle, les éléments horizontaux de l'une se multipliant à leur tour avec les éléments verticaux de l'autre pour former une matrice encore plus large, même si dans la réalité un seul minuscule déterminant se dressait face à cette matrice géante, la Gouttelette. Ding Yi n'aimait pas les asymétries extrêmes dans les mathématiques. C'est pourquoi sa tentative de se calmer grâce à cette gymnastique mentale échoua. Quand la force d'accélération cessa, il tourna la tête et entama une conversation avec Si Tsi, assise à côté de lui. « Alors, gamine, tu es de Honshu ?» demanda-t-il. Si Tsi regardait droit devant elle. Elle paraissait chercher des yeux le mantre religieuse qui était encore à une distance de quelques centaines de kilomètres. Après avoir détourné son attention du hublot, elle secoua la tête. « Non, maître Ding, je suis né au sein de la flotte asiatique. Je ne savais pas que mon nom avait un rapport avec la ville de Honshu, mais j'ai eu l'occasion de la visiter, c'est un très bel endroit. » « C'était le cas à notre époque. Maintenant, le lac de l'Ouest est devenu le lac du croissant de lune, et il est en plein milieu du désert. » Tiens, en parlant de désert, même s'il y en a partout, le monde d'aujourd'hui me rappelle le Jiangnam, là où les femmes étaient jadis aussi belles que l'eau, s'enflamma Ding Yi en regardant Si Tsi, dont la silhouette délicate était découpée par les doux rayons du soleil lointain qui perçait à travers le hublot. Gamine, quand je te regarde, je repense à une femme que j'ai aimée. Comme toi, elle était major de l'armée. Elle n'était pas aussi grande, mais elle était aussi belle. Maître Ding, le canal de communication externe est allumé, lui rappela Si Tsi sans s'émouvoir, les 2 yeux toujours rivés sur l'espace lointain. Ça ne fait rien. Tout le monde est si nerveux dans les flottes et sur Terre qu'il n'y a pas de mal à avoir une discussion plus légère, dit Ding Yi en faisant un geste du doigt derrière lui. Bien dit, docteur Ding. Se mit à rire le major de la flotte nord-américaine assis au premier rang en se tournant vers lui.
Dans le temps, vous avez dû être aimé par beaucoup de femmes, maître Ding, dit Cixi en détournant son regard vers Ding Yi. Elle, qui était très nerveuse, avait senti que le moment était en effet bienvenu de se changer les idées.
Ça, je n'en sais rien, je ne m'intéressais pas aux filles qui tombaient amoureuses de moi, seulement à celles dont j'étais amoureux.
Pouvoir passer du temps avec ceux qu'on aime tout en accomplissant de si grands exploits n'est pas donné à tout le monde à notre époque.
Oh, non, non, vous savez, d'ordinaire, je ne dérange pas les filles que j'aime. Je crois en ce que dit Goethe. Je t'aime. Est-ce que cela te regarde ?
Cixi rit en regardant Ding Yi.
Ah, si j'avais eu la même attitude avec la physique, continua Ding Yi. Le plus grand regret de ma vie aura été d'avoir eu les yeux bandés par les intellectrons. Mais en allant plus loin, on peut quand même positiver. J'explore les lois de la nature, est-ce que cela les regarde ?
Peut-être qu'un jour viendra où les humains, ou peut-être d'autres créatures, exploreront tant de lois qu'ils pourront non seulement changer leur propre réalité, mais aussi tout l'univers. Un jour où ils seront capables de modeler à l'envi les galaxies pour leur donner la forme dont ils ont besoin. Mais après, les lois ne changeront pas pour autant. Elles seront toujours là, seule existence à jamais jeune et invariable, comme les souvenirs des êtres que nous avons aimés. Et tout en parlant, Ding Yi pointa du doigt la voie lactée éclatante derrière le hublot.
« Quand j'y pense, mes pensées s'évadent. »
La major hocha la tête, déçue de la tournure que prenait le monologue. « Maître Ding, et si vous reparliez plutôt des femmes belles comme l'eau ?» Ding Yi n'avait plus envie de parler. Cixi, elle aussi, resta muette. Le silence s'empara de la navette. Le mante religieuse fut bientôt visible, même s'il ne s'agissait encore que d'un point lumineux à 200 kilomètres de distance. La navette fit une rotation de 180 degrés et la tuyère de son moteur, à présent pointée vers le vaisseau, commença à décélérer. À présent, la flotte se trouvait devant la navette, à environ 800 kilomètres. C'était certes une distance ridicule à l'échelle de l'espace, mais tous les vaisseaux n'étaient plus que des points de lumière informes. Ce n'était que grâce à sa rigoureuse formation qu'on pouvait encore reconnaître celle-ci au milieu du décor d'étoiles. Sa matrice rectangulaire semblait grillager la voie lactée. Entre le chaos de cet amas d'étoiles et la rigueur de la formation, s'était créé un contraste saisissant. La grande taille de la flotte, même réduite par la distance, faisait apparaître sa puissance. Sur Terre et au sein des vaisseaux de la flotte unie, beaucoup de ceux qui virent cette image sentirent que c'était la démonstration visuelle de ce que venait de raconter Ding Yi. Quand la force de décélération fut arrêtée, la navette avait rejoint le mante religieuse. Tout cela s'était passé si vite que le petit groupe d'expédition avait eu l'impression que le mante religieuse avait brusquement surgi dans l'espace. L'amarrage fut rapide. Le mante religieuse étant inhabité, il n'y avait pas d'air dans la cabine et les quatre membres du groupe d'expédition durent enfiler une légère combinaison spatiale. Après avoir reçu les dernières instructions de la flotte, ils traversèrent en apesanteur l'écoutille d'amarrage et entrèrent dans le mante religieuse. Le vaisseau ne comportait qu'une cabine principale sphérique au milieu de laquelle flottait la gouttelette. Ces couleurs n'étaient absolument pas les mêmes que sur l'image qu'ils avaient pu voir sur le Quantum. Elle était devenue beaucoup plus obscure et plus douce. Ce qui différait cependant n'était pas l'objet en soi, mais le paysage qu'elle reflétait, car la surface miroitante de la gouttelette n'avait aucune couleur. Dans la cabine principale du mante religieuse s'entassaient toutes sortes d'équipements, parmi lesquels le bras mécanique replié qui avait servi à capturer la gouttelette, ainsi que quelques spécimens de roches provenant de la ceinture d'astéroïdes. Suspendu au centre de cet environnement mécanique et rocailleux, la gouttelette fit une nouvelle fois apparaître une dissonance. Raffinement contre trivialité. Beauté contre technologie. « C'est une larme de la Vierge Marie, » dit Cixi. Cette parole fut transmise depuis le mante religieuse à la vitesse de la lumière. Elle traversa d'abord la flotte spatiale et résonna finalement 3 heures plus tard dans le monde entier. Au sein de ce groupe d'expédition, Tsitsi, le major et le capitaine étaient des êtres ordinaires que le hasard avait poussés dans une situation qui deviendrait plus tard un épisode central de l'histoire de la civilisation. Plus ils approchaient de l'objet, plus ils étaient envahis d'un sentiment commun. La gouttelette ne provoquait plus de l'étrangeté, mais un intense désir de reconnaissance. Oui, dans le désert de l'univers, tous les organismes carbonés partageaient un destin commun. Ce destin prendrait peut-être des centaines de millions d'années à cultiver, mais ce serait celui d'un amour traversant l'espace et le temps. Et à cet instant même, la gouttelette donnait déjà à sentir cet amour, un amour qui pouvait combler les fossés infranchissables de la haine. Les yeux de Tsitsi se mouillèrent de larmes, comme le feraient 3 heures plus tard ceux de quelques milliards d'autres hommes. Ding Yi, lui, restait en retrait, observant tout cela d'un regard froid.
« J'en ai vu d'autres, » dit-il. « Des choses plus époustouflantes encore, des royaumes où le soi et l'autre se perdent, où l'on se ferme pour pouvoir tout contenir. »«
C'est trop philosophique pour moi, » récite-t-il dans un hoquet de larmes. « Docteur Ding, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Le major fit signe à Ding Yi d'avancer. Il devait être le premier à toucher la gouttelette. Ding Yi plana lentement jusque devant elle et posa une main. Il devait être vêtu de gants pour éviter les gelures qu'aurait causé la surface réfléchissante proche du zéro absolu. Cela fait, les 3 autres officiers commencèrent aussi à tâter l'objet.
« Elle a l'air si fragile, on aurait presque peur de la briser, » murmura Tsitsi.
« On ne sent absolument aucune rugosité, » s'étonna le commandant. « Sa surface est parfaitement lisse. »
« Jusqu'à quel point est-elle lisse ?» demanda Ding Yi.
Pour répondre à cette question, Tsitsi sortit de la poche de sa combinaison un appareil cylindrique, un microscope. Elle plaça la lentille contre la surface de la gouttelette et, sur le petit écran de l'appareil, ils purent voir l'image agrandie de la surface. L'écran montrait un miroir lisse.
« Quel est le grossissement ?» demanda Ding Yi.
« 100 fois, répondit-elle en montrant un nombre dans un coin de l'écran. Puis elle régla le grossissement à 1000 fois. Là encore, la surface était toujours lisse et miroitante.
« Votre appareil est sans doute cassé ?» dit le capitaine.
Tsitsi ôta le microscope de la gouttelette et le plaça contre sa visière. Les 3 autres s'approchèrent pour observer l'écran. La surface de la visière, qui paraissait polie et immaculée comme celle de la gouttelette à l'œil nu, semblait maintenant aussi rugueuse que de la roche. Tsitsi replaça à nouveau l'appareil sur la surface de la gouttelette et l'écran afficha une nouvelle fois une surface extrêmement lisse, sans la moindre différence avec ses contours non grossis.
« Multipliez le grossissement par 10, » dit Ding Yi.
C'était au-delà du pouvoir de résolution du grossissement optique. Tsitsi exécuta une série d'opérations, puis régla l'appareil en mode microscope à effet tunnel. Le grossissement était à présent de 10 000 fois. Rien n'avait changé. Grossie 1000 fois, la surface la plus lisse qui pouvait être produite par l'homme se révélait rugueuse, comme le visage de la princesse géante vue par Gulliver.
« 1 million de fois ?»
Toujours la même surface lisse.
10 millions ?
À ce niveau de grossissement, on pouvait normalement voir les macromolécules, mais sur l'écran du microscope s'affichait encore et toujours une surface lisse, dénuée de la moindre trace de rugosité. Sa pureté était toujours identique aux parties de la surface non grossie.
Encore ?
Tsitsi secoua la tête, c'était déjà le grossissement maximum que pouvait atteindre le microscope à effet tunnel. 2 siècles plus tôt, dans son roman « 2001, l'Odyssée de l'espace », Arthur C. Clarke avait raconté l'histoire d'un monolithe noir laissé par une civilisation extraterrestre très avancée à la surface de la Lune. Les observateurs avaient d'abord mesuré ses dimensions à la règle ordinaire, puis les avaient chiffrées avec plus de précision, mais leur rapport restait parfaitement et invariablement 1, 4, 9.
Clark avait décrit ce rapport comme une perfection géométrique presque arrogante. Et voilà qu'à présent, l'humanité faisait face à une démonstration de puissance plus arrogante encore.
Existe-t-il vraiment une surface absolument lisse ? S'exclama Tsitsi.
Oui, fit Digny. La surface d'une étoile à neutrons est presque absolument lisse.
Mais cet objet a une masse normale.
Digny réfléchit un moment, puis, regardant autour de lui, il dit
« Établissez le contact avec l'ordinateur du vaisseau et localisez l'endroit où le bras mécanique a attrapé la gouttelette lors de sa capture. »
Un officier de surveillance de la flotte s'en chargea. L'ordinateur du mante religieuse projeta quelques faisceaux laser rouges sur la gouttelette pour indiquer la position où elle avait été agrippée par les griffes de fer. Tsitsi examina cette partie de la surface au microscope. Grossie 100 millions de fois, elle était d'une imperturbable et suprême lisseur.
« Quelle a été la pression sur le point de contact ?» demanda le capitaine.
Il obtint vite la réponse de la flotte. Environ 200 kg par centimètre carré. Les surfaces lisses étaient d'ordinaire les plus faciles à érafler, mais la gouttelette ne portait aucun stigmate de la puissante pince métallique du bras mécanique. Digny s'écarta et chercha en planant quelque chose dans la cabine. Il revint avec un marteau qu'un géologue avait peut-être laissé ici après une mission de collecte de spécimens rocheux. Avant même que quelqu'un ait eu le temps de l'en empêcher, il frappa avec force sur la surface miroitante. Il entendit un tintement métallique clair et mélodieux, comme s'il avait martelé un sol de jade. Le bruit traversa son corps, mais en raison du vide, les trois autres ne purent l'entendre. Digny désigna ensuite l'endroit de l'impact avec le manche. Tsitsi y plaça l'extrémité du microscope. À un grossissement de 100 millions de fois, c'était toujours la même surface lisse et miroitante. Digny jeta le marteau de géologue d'un air abattu. Il ne regardait plus la gouttelette. Il avait la tête baissée et était plongé dans ses pensées. Les yeux des trois officiers ainsi que ceux du million de membres de la flotte étaient rivés sur lui.
« Nous ne pouvons qu'essayer de deviner, »
commença Digny en levant la tête.
« Les molécules de cette chose sont en rang parfait, comme une garde d'honneur, c'est une sorte de concrétion moléculaire. Et savez-vous quel est le degré de solidité de cette concrétion ? C'est comme si les molécules étaient clouées sur place. Elles ne vibrent même plus. »
« Quelle force serait capable de créer un tel phénomène ? » ?»«
Il n'y en a qu'une. L'interaction forte. » L'une des plus grandes forces de la nature, qui permet la cohésion d'un noyau atomique en liant les protons et les neutrons entre eux au sein de celui-ci.
Derrière sa visière, on pouvait voir que le front de Digny était déjà couvert de sueur.
Mais ce serait comme décocher une flèche sur la Lune.
En effet, ils ont décoché une flèche sur la Lune. Une larme de la Vierge Marie.
fit Digny, dont le rire froid fit courir un frisson dans le dos de ceux qui l'écoutaient. Les trois autres officiers savaient ce que signifiait ce rire. La gouttelette était loin d'être aussi fragile qu'une larme. Elle était des centaines de fois plus résistante que la matière la plus solide du système solaire. Toutes les substances du monde connu étaient devant elle aussi frêles que des feuilles de papier. Elle pouvait transpercer la terre comme une balle de pistolet dans du fromage, sans même que sa surface ne connaisse la moindre éraflure.
« Alors, pourquoi a-t-elle été envoyée ici ?»
laissa échapper le capitaine.
« Qui sait ? C'est peut-être bien un messager, mais qui apporte à l'humanité un tout autre message que celui auquel elle s'attendait, »
dit Digny tout en écartant son regard de la gouttelette.
« Comment ?»
« Je te détruis. Est-ce que cela te regarde ?»
Ces mots furent suivis d'un silence de mort. Tandis que les trois autres membres du groupe d'expédition et les millions de membres de la flotte ruminaient le sens de ceux-ci, Digny lâcha soudain.
« Courez ! Vite !»
Il avait d'abord prononcé ces deux mots à voix basse, mais il souleva les deux mains et cria comme hystérique. «
Gamins idiots, courez, vite !»«
Courir ? Où ?» demanda Tsitsi, paniqué.
Le capitaine comprit quelques secondes après Dingy, et comme lui, il poussa un cri de désespoir.
« Flotte ! Dispersion de la flotte !»
Mais c'était trop tard. Une immense perturbation était apparue. L'image retransmise depuis le mante religieuse s'était distordue. Les communications avaient été coupées et la flotte n'avait pas entendu le dernier cri du commandant. À l'extrémité de la poupe de la gouttelette émergea un halo bleu. Au début très petit mais très brillant, il enveloppa la cabine d'un linceul bleuâtre, puis il s'élargit brusquement. Sa lumière, de bleu, passa au jaune, puis enfin au rouge, comme si ce nouveau halo n'avait pas été produit par la gouttelette, mais qu'il avait été forgé par le halo lui-même. Tandis qu'il s'agrandissait, sa luminosité faiblissait, et quand il fit enfin le double du diamètre le plus long de la gouttelette, il disparut. Simultanément à sa disparition, un deuxième anneau de lumière bleue réapparut à la poupe. Comme le premier, il s'élargit, changea de couleur et sa luminosité faiblit avant de s'estomper. À une fréquence d'environ 2 à 3 fois par seconde, des halos continuèrent de jaillir ainsi à l'arrière de la gouttelette. Sous la propulsion de ceux-ci, la gouttelette se mut et accéléra subitement. Les 4 membres du groupe d'expédition n'eurent pas la chance de voir apparaître le deuxième halo. Dès la naissance du premier, ils furent instantanément réduits à l'état gazeux par une température proche de celle du noyau solaire. Le mante religieuse émit une lueur rouge. Vu de l'extérieur, il ressemblait à une lanterne en papier enflammée par la bougie déposée à l'intérieur. Sa structure métallique fondit comme de la cire et, peu de temps après avoir commencé à fondre, le vaisseau explosa. Il ne restait plus aucun fragment solide du mante religieuse. Toutes les substances métalliques s'étaient dispersées dans l'espace en un liquide incandescent. À 1000 kilomètres de là, la flotte put assister à l'explosion du mante religieuse. La première réaction fut de penser que la gouttelette s'était autodétruite. Ils éprouvèrent d'abord du chagrin pour les 4 membres sacrifiés, puis, aussitôt après, de la déception que la gouttelette n'ait finalement pas été le messager de paix qu'ils attendaient. Mais l'humanité ne s'était pas psychologiquement préparée à ce qui se passerait ensuite. La première anomalie fut identifiée par l'ordinateur du système de surveillance spatiale de la flotte. Celle-ci avait été découverte lors du traitement de l'image de l'explosion du mante religieuse. Un fragment suspect s'y présentait. La plupart des débris du vaisseau étaient maintenant du métal à l'état liquide, se déplaçant à une vitesse régulière dans l'espace. Ce fragment était le seul à accélérer. Bien sûr, seul un ordinateur avait pu remarquer ce phénomène au milieu de la dispersion des fragments du mante religieuse. Il l'indexa aussitôt dans sa base de données et dans sa banque de connaissances, et afficha un grand nombre d'informations, y compris sur le mante religieuse. Il proposa plusieurs dizaines d'explications possibles à l'apparition de cet énigmatique fragment, mais aucune ne s'avéra juste. Ni l'humanité ni l'ordinateur n'avaient pris conscience que l'explosion n'avait détruit que le mante religieuse et les 4 humains à son bord. Rien de plus. Quant à ce fragment en accélération, le système de surveillance spatiale de la flotte n'émit qu'une alerte d'attaque de niveau 3, car l'objet ne fonçait pas droit sur la flotte, mais dans un coin de la formation en rectangle. Au regard de sa trajectoire présente, il devait passer à l'extérieur de la formation sans toucher le moindre vaisseau. En raison du grand nombre d'alertes de niveau 1 émises lors de l'explosion du mante religieuse, cette alerte de niveau 3 fut ignorée. Mais l'ordinateur avait cependant remarqué que le fragment avait une accélération croissante. Après avoir parcouru 300 kilomètres, il avait déjà franchi la 3e vitesse cosmique et il continuait à gagner de la vitesse. Le niveau d'alerte fut relevé au niveau 2, mais encore une fois ignoré. Seules 50 secondes s'écoulèrent entre le moment où le fragment quitta l'épicentre de l'explosion jusqu'à ce qu'il atteigne le coin de la formation. Sa vitesse était déjà de 31,7 km par seconde. Il se trouvait à présent à la bordure de la formation, à une distance de 160 km du Frontière Infinie, le premier vaisseau dans ce coin de la matrice. Mais le fragment ne passa pas à côté de la formation. Il exécuta un virage à un angle précis de 30 degrés sans que cela affecte sa vitesse et fonça vers le Frontière Infinie. Pendant les 2 secondes environ où il combla cette distance, l'ordinateur du système de surveillance redescendit étrangement le niveau d'alerte de ce fragment de 2 à 3, considérant que ce fragment ne pouvait être un objet physique, car il avait accompli un mouvement impossible selon les principes de la mécanique aérospatiale. Effectuer un changement de direction aussi précis à une vitesse de 2 fois la 3e vitesse cosmique sans même décélérer était aussi violent que percuter à la même vitesse un mur de fer. Si l'objet volant avait contenu un bloc de métal, la force qu'aurait exercé ce virage brusque aurait aussitôt pu le changer en une fine membrane. Le fragment ne pouvait donc être qu'une illusion. Et ce fut ainsi que la gouttelette, à une vitesse correspondant au double de la 3e vitesse cosmique, percuta le Frontière Infinie, à une trajectoire en ligne droite de la première rangée de la formation. La gouttelette heurta un tiers de la poupe du Frontière Infinie et le traversa comme une ombre sans qu'il oppose de résistance. En raison de la vitesse extrême du choc, à l'emplacement de l'impact où la gouttelette avait frappé et transpercé la coque du vaisseau, étaient apparues 2 ouvertures circulaires extrêmement régulières, dont le diamètre correspondait à celui de la partie la plus large de la gouttelette. Mais à peine apparues, les trous se déformèrent et s'évanouirent, car la coque tout autour fondit sous l'effet de la chaleur produite par l'impact et par la très haute température des halos de propulsion de la gouttelette. Très vite, la section du vaisseau ayant subi le choc rougeoya, et ce rougeoiement commença à s'étendre sur la coque, recouvrant la moitié du Frontière Infinie, tel un morceau de métal tout juste sorti d'une forge. Après avoir traversé le Frontière Infinie, la gouttelette continua son vol à une vitesse d'environ 30 km par seconde. En l'espace de 3 secondes, elle se retrouva donc 90 km plus loin, embrochant d'abord le lointain, le vaisseau voisin du Frontière Infinie dans le premier rang de la formation, puis le Corne de Brume, l'Antarctique et le Suprême. Leurs structures se mirent elles aussi à rougeoyer comme une rangée de lampes s'allumant l'une après l'autre dans l'ordre de la formation. Débuta alors l'explosion du Frontière Infinie. Comme tous les autres vaisseaux transpercés après lui, il avait été percuté au niveau de son réservoir de combustible de fusion, mais contrairement à l'explosion régulière du mante religieuse provoquée par la haute température, l'explosion du Frontière Infinie fut le résultat d'une réaction de fusion de ses propres combustibles. Personne ne saurait jamais si cette réaction avait été provoquée par les halos de propulsion de la gouttelette ou par un autre facteur. Toujours est-il que la boule de feu de l'explosion thermonucléaire apparut au niveau du point d'impact et se propagea à toute allure jusqu'à ce que toute la flotte soit éclairée par une lumière intense, éclipsant la voie lactée devant le fond de velours noir de l'espace. Des boules de feu similaires naquirent à sa suite sur le lointain, le Corne de Brume, l'Antarctique et le Suprême. Dans les 8 secondes qui suivirent, la gouttelette perfora 10 autres vaisseaux interstellaires. À cet instant, la boule de feu qui avait déjà englouti toute la coque du Frontière Infinie commença à rétrécir pendant que, sur d'autres bâtiments, de nouvelles boules de feu s'allumaient et gonflaient. La gouttelette continua à allonger la première rangée de la formation. Avec des intervalles d'à peine 1 seconde, elle transperça un à un les vaisseaux interstellaires qui se dressaient sur son chemin. La boule de feu thermonucléaire apparue au niveau du Frontière Infinie s'éteignit. La structure déjà entièrement fondue de l'appareil cracha 1 million de tonnes d'un liquide métallique aux lueurs rouges sombres comme un bouton de fleur s'ouvrant avec fureur. Le métal fondu s'éparpilla sans obstacle dans l'espace en une tempête de lave métallique bouillonnante. La gouttelette poursuivit sa course, suivant une même ligne droite, enfilant les vaisseaux comme des perles, laissant derrière elle une traînée de dizaines de boules de feu. La formation de la flotte rutila sous les rayons de ces petits soleils ardents et se métamorphosa en océan de lumière.
Derrière la rangée de boules de feu, les vaisseaux fondus continuaient à vomir des vagues de magma bouillonnant dans l'espace, comme des énormes rochers projetés dans un océan de lave. En 1 minute et 18 secondes, la gouttelette couvrit un trajet de 2000 kilomètres. Elle avait perforé les 100 vaisseaux de la première rangée de la formation rectangulaire de la flotte unie. Lorsque le dernier vaisseau de la rangée, la dent, fut avalé par une boule de feu nucléaire, à l'autre extrémité, le magma métallique avait fini de se répandre et commençait à refroidir. Il n'y avait presque plus aucune trace au cœur de l'explosion, là où le frontière infini se trouvait 1 minute plus tôt. Le lointain, le corne de brume, l'Antarctique, le suprême, tous s'étaient évanouis en magma métallique volant. Lorsque la dernière des boules de feu de la ligne s'éteignit, l'espace replongea dans le noir. Le magma, qui n'était déjà plus très visible, réémergea cependant soudain sous la forme de lueurs carmin, comme une rivière de sang longue de 2000 kilomètres. Après avoir transpercé le dernier vaisseau de la rangée, la gouttelette continua à voler sur une petite distance de 80 kilomètres dans l'espace vide, avant d'exécuter un nouveau virage inexplicable pour la mécanique humaine, mais cette fois avec un angle encore plus serré, environ 15 degrés, comme si elle tournait brusquement la tête et repartait en sens inverse, gardant la même vitesse inchangée. Elle réajusta quelque peu sa trajectoire vers la deuxième rangée de la matrice, ou la première maintenant que le premier rang était détruit. Elle fonça en ligne droite à une vitesse de 30 km par seconde dans la direction du premier vaisseau, le Gange. Jusqu'ici, l'état-major de la flotte unie n'avait pas eu la moindre réaction. Le système d'information militaire de la flotte avait pourtant accompli son devoir en dressant un rapport complet de l'offensive 1 minute et 18 secondes grâce à son réseau de surveillance. La somme colossale de ces informations ne pouvait être analysée que par le supercalculateur du système stratégique décisionnel qui arriva à la conclusion suivante. Une puissance ennemie spatiale colossale avait fait son apparition dans l'espace et lançait une offensive contre la flotte, mais le supercalculateur ne pouvait fournir aucune information sur cette puissance. Deux points pouvaient néanmoins être considérés comme certains. 1. La force ennemie provenait de l'emplacement de la gouttelette. Et 2. Cette puissance était invisible pour toutes les méthodes de détection à disposition de la flotte. L'état-major était paralysé par le choc. Pendant 2 longs siècles, les technologies et les stratégies de guerre spatiale avaient envisagé toutes sortes de scénarios militaires, jusqu'aux plus extrêmes, mais jamais ils n'avaient imaginé être témoins de la déflagration en série, comme une ribambelle de pétards, de 100 vaisseaux spatiaux en moins 1 minute. Cela dépassait son entendement. Noyé sous une marée d'informations, il ne pouvait s'en remettre qu'aux analyses et aux jugements du supercalculateur du système stratégique décisionnel et concentrer son attention sur l'observation de cette flotte ennemie invisible. Le système de surveillance élargit donc son champ d'observation vers l'espace lointain et en oublia le danger devant ses yeux. Une majorité des membres de la flotte crurent même que cet ennemi invisible et meurtrier était une troisième force qui n'était ni l'humanité ni Trisolaris, car dans leur inconscient, le faible monde trisolarien était déjà vaincu. Si le système de surveillance de la flotte n'avait pas identifié la présence de la gouttelette plus tôt, c'était parce que sa longueur d'onde n'était pas détectable par les radars. Aussi, il n'était possible de la voir que grâce à une analyse des images du spectre visible. Or, ces images n'étaient pas traitées de façon aussi prioritaire que celles transmises au système par les radars. Les tempêtes de débris explosés et dispersés dans l'espace lors de l'attaque étaient pour leur grande majorité composées de métal liquide ayant fondu sous l'effet de la température des explosions nucléaires. Pour chaque vaisseau, ces morceaux de métal fondu atteignaient 1 million de tonnes et une quantité considérable d'entre eux avaient à peu près la même taille et la même forme que la gouttelette. Il était donc très difficile pour l'ordinateur chargé d'analyser les images d'identifier la gouttelette au milieu de tous les autres fragments. D'autant plus que la plupart des membres de l'état-major étaient persuadés que celle-ci s'était autodétruite dans le mante religieuse.
Par conséquent, aucune instruction spécifique ne fut donnée pour effectuer ce type d'analyse. Dans le même temps, d'autres éléments accrurent la confusion sur le champ de bataille. Les débris éjectés lors de l'explosion de la première rangée de vaisseaux atteignirent rapidement la deuxième, forçant les systèmes de défense des appareils à réagir à coups de laser à haute énergie et de canons électromagnétiques pour les intercepter. Ces fragments volants, de taille irrégulière, étaient pour la plupart des morceaux de métal fondus par les boules de feu nucléaire. Bien que ces fragments eussent été refroidis par la température glaciale de l'espace, seule leur couche externe s'était solidifiée, tandis que l'intérieur était toujours dans un état de métal bouillant liquide, si bien que les fragments explosaient en un véritable feu d'artifice de lave lorsqu'ils entraient en collision avec un vaisseau. Bien vite, une barrière de flammes se forma en parallèle de la rivière sanguinolente laissée entre la première et la deuxième rangée. Telle la houle d'une mer déchaînée par le souffle d'un ennemi invisible, elle se contracta en un chapelet d'explosions frénétiques. Les fragments qui traversaient les airs étaient aussi épais que des grêlons et les systèmes de défense se montrèrent incapables de les intercepter tous. Une bonne partie d'entre eux vinrent donc percuter les coques des vaisseaux. Ces gerbes de métaux à moitié solides et liquides avaient une force de destruction considérable et bon nombre de vaisseaux de la seconde rangée de la flotte subirent des dommages irrémédiables. Certaines coques furent même perforées, déclenchant de stridentes alarmes de décompression. Le reste de la flotte dirigea toute son attention sur cette lutte éblouissante des vaisseaux contre les fragments volants. Les supercalculateurs, comme les membres de l'état-major, eurent l'illusion que les vaisseaux s'engageaient dans un combat avec une force spatiale ennemie. Aucun ordinateur ni aucun humain ne remarqua le petit dieu de la mort qui avait commencé à détruire la deuxième rangée de la formation. Aussi, lorsque la gouttelette fondit sur le Gange, les 100 vaisseaux de la deuxième rangée formaient encore une parfaite ligne droite. Une ligne de mort. La gouttelette surgit comme l'éclair et, en l'espace d'à peine 10 secondes, elle transperça 12 nouveaux vaisseaux, le Gange, le Colombie, le Justice, le Masada, le Proton, le Yandi, l'Atlantique, le Sirius, le Thanksgiving, l'Avant, le Han et le Tempête. Comme lors de la destruction de la première rangée, chaque vaisseau victime de la collision commençait par rougeoyer, puis était englouti par une boule de feu nucléaire, suivie à son tour par l'éruption de millions de tonnes de magma métallique. Au milieu de cette terrible scène de chaos, les vaisseaux en ligne droite semblèrent s'embraser comme une mèche longue de 2000 kilomètres qui, après une combustion violente, ne laissa derrière elle que des cendres incandescentes. 1 minute et 21 secondes plus tard, les 100 vaisseaux de la deuxième rangée avaient tous été anéantis. Après avoir transpercé le dernier vaisseau, le Meiji, et rejoint l'extrémité de la rangée, la gouttelette exécuta une nouvelle fois un virage à angle serré pour attaquer le Newton, le vaisseau situé en tête de la troisième rangée. Durant le processus de destruction de la deuxième rangée, les débris issus des explosions des vaisseaux avaient eux aussi déferlé sur la rangée voisine. Parmi eux se trouvaient les fragments de métal liquide fondu de la deuxième rangée, mais aussi ceux de la première, qui s'étaient maintenant presque tous solidifiés. Tandis que s'activait le système de défense des vaisseaux de la troisième rangée, certains appareils avaient eu le temps de faire démarrer leurs moteurs et, par conséquent, contrairement aux deux premières rangées, la troisième ne formait plus une ligne parfaitement droite, même s'il composait toujours une même haie grossière. Après avoir embroché le Newton, la gouttelette ajusta sa trajectoire et, en un clin d'œil, elle parcourut les 20 kilomètres qui la séparaient du vaisseau du Lumière, qui s'était écarté de 3 kilomètres de la rangée d'origine. Puis, une fois qu'elle l'eut transpercée, elle vira une nouvelle fois de bord et fonça vers le Crétacé, qui se déplaçait de l'autre côté de la ligne. En suivant une ligne courbe, la gouttelette alla frapper un à un les vaisseaux de la troisième rangée, sans jamais ralentir, en conservant toujours cette vitesse de 30 km par seconde. Les experts découvriraient plus tard avec effarement que pendant tout son trajet, chaque virage avait été pris avec un angle saillant,
et non courbe comme les vaisseaux spatiaux des flottes terriennes. Cette diabolique trajectoire de vol démontrait une capacité de propulsion au-delà de l'entendement humain, comme si la gouttelette était une ombre sans masse se déplaçant telle la pointe d'un crayon divin, en faisant fi des principes de la dynamique. Tandis qu'elle attaquait la troisième rangée de la flotte, la gouttelette changeait brusquement de direction à une fréquence de 2 ou 3 fois par seconde. C'était l'aiguille d'un dieu de la mort dont le fil souple et agile finit par larder 100 vaisseaux. En 2 minutes et 35 secondes, la gouttelette eut raison de la troisième rangée. À cet instant, tous les vaisseaux de la flotte avaient allumé leurs moteurs et la matrice avait déjà perdu sa forme régulière. La gouttelette, elle, continuait de frapper les appareils en train de se disperser. Sa vitesse de destruction s'était quelque peu réduite, mais à chaque instant, 3 à 5 boules de feu jaillissaient entre les appareils, et sous l'éclat des rayons mortels qui surgissaient de leurs moteurs, ils devenaient des lucioles apeurées. Le système de commandement de la flotte ignorait encore jusqu'ici la source réelle de cette attaque et persistait encore à chercher la trace d'une flotte ennemie imaginaire. Cependant, une étude qui serait menée plus tard de la marée d'informations transmises pendant l'offensive montrerait qu'une analyse relativement proche de la réalité avait été dressée par 2 officiers subalternes à bord de 2 vaisseaux de la flotte asiatique. Chao Xin, assistant du système d'examen des cibles du Nord, et Li Wei, contrôleur du système d'armement électromagnétique à bord du Kunpeng. Voici la transcription qui fut faite de leur conversation. Chao Xin.
Nord, poste de combat TR-317, appelle Kunpeng, poste de combat EM-986. Nord, poste de combat TR-317, appelle Kunpeng, poste de combat EM-986.
Li Wei.
Ici Kunpeng EM-986. Faites attention, les communications de vaisseau à vaisseau à ce niveau d'information enfreignent le règlement en état de guerre.
Chao Xin.
Li Wei, c'est toi? Ici Chao Xin, c'est toi que je cherchais.
Li Wei.
Salut, content de te savoir encore en vie.
J'ai découvert quelque chose que je voudrais envoyer au système de commandement partagé, mais je n'ai pas les droits d'accès, tu peux m'aider?
Moi non plus je n'ai pas les droits d'accès, et puis de toute façon il y a trop d'informations qui partent dans le système maintenant. Qu'est-ce que tu voulais transmettre?
J'ai analysé une image visuelle de la bataille et...
Tu ne devrais pas plutôt t'occuper d'analyser les informations transmises par les radars?
C'est justement là que le système se trompe. En analysant cette image visuelle, j'ai simplement extrait les caractéristiques de vitesse. Et tu sais ce que j'ai trouvé? Tu sais ce qui se passe en ce moment même?
Toi, tu as l'air de savoir, en tout cas.
Ne me prends pas pour un fou. Nous sommes amis, tu me connais.
Tu es une créature à sang froid. Tu serais bien le dernier à devenir fou. Dis-moi.
Écoute-moi ça. C'est la flotte qui est devenue folle. On s'attaque nous-mêmes. Le frontière infini a attaqué le lointain. Le lointain a attaqué le corne de brume. Le corne de brume a attaqué l'Antarctique. L'Antarctique...
Putain, tu es devenu dingue?
C'est ce qui est en train de se passer. A attaque B, puis avant d'exploser, B attaque C, puis avant d'exploser, C attaque D. C'est comme si tous les vaisseaux avaient attrapé une maladie contagieuse. Ils se font attaquer et aussitôt après, ils attaquent le prochain. Comme une course de relais. Ils sont devenus fous, je te dis.
Quelles sont les armes qu'ils utilisent?
Je ne sais pas, j'ai seulement réussi à extraire un projectile dans l'image. Tout petit, mais avec une rapidité. Putain, encore plus rapide que tes canons électromagnétiques. Et précis avec ça. À chaque coup, ils touchent le réservoir de combustible.
Envoie-moi l'analyse.
C'est déjà fait, je t'ai envoyé les données brutes et l'analyse vectorielle. Regarde-moi ça, c'est totalement diabolique.
L'analyse du sous-officier Chao Xin, bien qu'erronée, se rapprochait tout de même de la réalité. Li Wei passa quant à lui une demi-minute à étudier le document envoyé. Pendant cet intervalle de temps, 39 vaisseaux furent détruits.
J'ai calculé la vitesse.
Laquelle?
Celle du petit projectile. Sa vitesse diminue quand il est lancé à partir d'un vaisseau, mais il fait ensuite une pointe à 30 km/s. Et puis il frappe le prochain et il ressort un peu moins vite, puis il réaccélère.
Ça ne veut rien dire.
Ce que je veux dire, c'est que Ça fait un peu comme une traînée.
Une traînée, comment ça?
Chaque fois que le projectile transperce une cible, la traînée le ralentit.
Ça, j'avais compris, je suis pas idiot. Mais tu viens de dire le projectile. Tu veux dire qu'il n'y a qu'un seul objet?
Regarde dehors. 100 vaisseaux ont encore explosé.
Le dialogue entre les deux hommes n'avait pas été mené dans la langue moderne en usage au sein de la flotte, mais dans un chinois du 21e siècle. À leur façon de parler, on pouvait deviner que c'était des hibernautes. Ceux-ci n'étaient pas très nombreux à servir dans la flotte, et bien que la majorité d'entre eux eussent été réveillés très jeunes, ils n'avaient pas la même faculté que les hommes modernes à absorber des connaissances. On leur attribuait donc la plupart du temps des postes subalternes. On découvrirait plus tard qu'au cours de cette grande destruction, les officiers et les soldats qui avaient le mieux fait preuve de sang-froid et de bon sens étaient des hibernautes. Ces deux officiers, malgré leur faible échelon hiérarchique et l'impossibilité pour eux d'avoir accès aux systèmes d'analyse les plus avancés des vaisseaux, avaient néanmoins été en mesure d'établir un raisonnement remarquable. Le message de Chao Xin et Li Wei ne parvint pas jusqu'à l'état-major, mais les analyses du système de commandement commençaient elles aussi à s'engager dans la bonne direction. Réalisant que la flotte ennemie invisible dont l'existence avait été à l'origine postulée par le supercalculateur n'existait pas, le système s'attachait désormais à analyser la masse des informations collectées. Après avoir effectué des recherches et recoupé les données à disposition, le système conclut enfin à l'existence de la gouttelette. L'image du petit objet, qui avait pu être extraite à partir des données recueillies, montrait qu'en dehors de ces halos de propulsion, sa forme était inchangée. C'était toujours cette même apparence de goutte parfaite. Seulement sa surface miroitante reflétait maintenant au rythme de sa course la lueur des boules de feu thermonucléaire et du magma métallique. On aurait dit une goutte de sang en fusion. Des analyses plus approfondies révélèrent ensuite la trajectoire d'attaque de la gouttelette. Plusieurs scénarios de l'ultime bataille avaient été envisagés durant les deux derniers siècles par les experts en stratégie spatiale. Mais dans l'esprit de ces stratèges, l'image de l'ennemi avait toujours été gigantesque. Ce que l'humanité affronterait pendant cette guerre serait une flotte monumentale dont chaque vaisseau serait une forteresse de la mort de la taille d'une petite ville. On avait imaginé toutes sortes d'armes que l'ennemi aurait peut-être en sa possession. Les plus effrayantes d'entre toutes étaient les canons antimatière qui, même de la taille d'un fusil, pouvaient anéantir n'importe quel vaisseau interstellaire. Mais la flotte unie devait bien admettre la réalité qu'elle avait devant les yeux. Son seul ennemi était une petite sonde qui avait jailli comme une goutte d'eau de l'océan des forces trisolariennes. Et sa tactique d'attaque était la plus vieille et la plus primitive de toute l'histoire des forces navales. Le bélier. Entre le moment où la gouttelette commença son attaque et celui où l'état-major arriva à un jugement correct, il s'écoula environ 13 minutes. C'était rapide en considération de la complexité et de l'atrocité des conditions du champ de bataille, mais l'offensive de la gouttelette avait été menée avec une rapidité encore plus prodigieuse. Dans les batailles navales du XXe siècle, quand un navire ennemi apparaissait à l'horizon, on avait encore le temps de réunir tous les commandants sur le vaisseau amiral pour une réunion de guerre. Mais dans le contexte d'une guerre spatiale, le temps se comptait en secondes et pendant ces 13 minutes-là, plus de 600 navires avaient déjà été anéantis par la gouttelette. Ce ne fut qu'au cours de cet épisode que les humains comprirent que le commandement d'une guerre spatiale était hors de leur portée. Mais en raison des barrières érigées par les intellectrons, c'était aussi hors de portée de l'intelligence artificielle. Par conséquent, du simple point de vue du commandement, l'humanité ne pourrait jamais rivaliser avec la force trisolarienne. En raison de la vitesse d'attaque de la gouttelette et de son indétectabilité par les radars, le système de défense de la flotte n'avait pu esquisser la moindre réaction. Mais à mesure que les vaisseaux s'éloignaient et que la distance d'attaque augmentait, les systèmes de défense des vaisseaux commencèrent à se réinitialiser en tenant compte des particularités de la gouttelette.
le Nelson fut le premier vaisseau attaqué à tenter d'intercepter l'objet en utilisant des canons laser pour élever le degré de précision des tirs contre cette petite cible ultra rapide. La gouttelette, touchée par quelques faisceaux, émit des rayons ultra puissants, en dépit du fait que le Nelson avait pourtant fait usage d'un laser à rayon gamma qui aurait normalement dû être invisible à l'œil nu. L'invisibilité de la sonde sur les radars n'avait pas fini de susciter la perplexité des experts, car elle possédait une surface entièrement réfléchissante et sa forme permettait en théorie une diffusion parfaite. Sa capacité à convertir les fréquences des ondes électromagnétiques reflétées était peut-être le secret de son invisibilité. Toujours est-il que la lumière qu'elle émit était si intense qu'elle rendit presque ternes les boules de feu nucléaires qui l'entouraient et obligea même les systèmes de surveillance à baisser la luminosité de leurs images pour éviter d'endommager leurs appareils optiques et de rendre aveugles ceux qui les regardaient. Le surgissement de ces rayons ultra-puissants revenait ainsi à accroître l'obscurité. Ce fut enveloppé par ces rayons engloutissant tout que la gouttelette transperça le Nelson. Quand ceux-ci s'éteignirent enfin, le champ de bataille se retrouva comme plongé dans le noir. Bientôt, les boules de feu montrèrent à nouveau leur puissance. La gouttelette sortit sans dommage du Nelson et fonça dans la direction du Vert, situé 80 km plus loin. Le système de défense du Vert bascula sur un autre mode d'interception et se servit d'un canon électromagnétique à énergie cinétique pour attaquer la gouttelette. Les obus métalliques envoyés par le canon avaient un puissant potentiel destructeur et, en raison de la vitesse apportée par l'énergie cinétique, ils frappaient leur cible avec la force d'une bombe. Envoyés en rafale sur une cible au sol, ils étaient capables de raser une montagne en un rien de temps. De plus, la vitesse relative de la gouttelette amplifiait leur force de frappe. Toutefois, au moment de l'impact, les obus n'eurent pour seul effet que de la ralentir. La gouttelette réajusta immédiatement sa propulsion et repartit de plus belle sous la grêle d'obus du Vert qu'elle perfora sans difficulté. Si on avait observé à cet instant la gouttelette grâce à un microscope à haut grossissement, on aurait pu remarquer la même surface miroitante d'une lisseur absolue, vierge de toute égratignure. La différence entre le matériau de la gouttelette composé par l'interaction forte et la matière ordinaire était en quelque sorte la même que celle entre un objet solide et un objet liquide. Les attaques des armes humaines contre la gouttelette n'étaient rien d'autre que des vagues frappant un rocher. Elles ne lui infligeaient aucun dommage. Rien dans tout le système solaire ne pourrait jamais la détruire. Le système de commandement de la flotte, qui venait tout juste de se stabiliser, sombra donc à nouveau dans le chaos. Mais cette fois, il était submergé par le désespoir. Toutes les stratégies qu'il était en mesure d'envisager étaient vouées à l'échec. Il ne s'en remettrait jamais. Dans l'espace, l'impitoyable massacre se poursuivait. La distance entre les vaisseaux augmentant, la gouttelette accéléra et doubla bientôt sa vitesse pour atteindre 60 km par seconde. Derrière son attaque continue, elle faisait montre d'une intelligence froide et calculatrice, empruntant chaque fois des trajectoires d'attaque différentes et apportant une solution parfaite au problème mathématique du postier chinois. Dans la mesure où ses cibles étaient en mouvement permanent, la gouttelette effectuait des mesures et des calculs complexes à toute vitesse et sans effort. Parfois, en plein cœur du carnage, elle se déportait brusquement et allait abattre quelques vaisseaux qui s'étaient un peu trop éloignés du gros de la flotte, rameutant de la sorte ceux qui avaient trop tendance à s'écarter, comme un chien de berger veillant à garder son troupeau en bon ordre aboie sur les moutons récalcitrants. N'ayant pas le temps de passer en état de mer profonde, les vaisseaux ne pouvaient produire de grandes accélérations et se révélaient incapables de se disperser rapidement. Transpercés par la gouttelette, les vaisseaux se mettaient instantanément à rougeoyer, mais pendant une durée de 3 à 5 secondes seulement, car les combustibles de la fusion explosaient et faisaient jaillir une boule de feu qui vaporisait toute vie se trouvant à l'intérieur. C'était du moins ce qui se passait dans la majorité des cas lorsque la gouttelette parvenait à frapper avec précision les réservoirs des combustibles, dont elle identifiait peut-être l'emplacement en temps réel,
à moins de puiser dans une base de données fournie par les intellectrons. Pour environ un dixième des cibles, en revanche, la gouttelette ne frappait pas les réservoirs. La destruction de ces vaisseaux n'était donc pas accompagnée de fusion nucléaire, et davantage de temps s'écoulait entre le moment où l'appareil se mettait à rougeoyer et celui où il finissait par exploser. C'était la situation la plus cruelle, car les passagers étaient soumis à de très hautes températures avant d'être carbonisés. L'évacuation des vaisseaux était complètement désordonnée. L'espace était rempli de débris solides ou d'autres à moitié solides et à moitié liquides, ainsi que de grands morceaux d'épave. Les systèmes de défense encore opérationnels devaient continuellement détruire ces objets volants à l'aide de leurs lasers et de leurs canons électromagnétiques. Atteints à des distances similaires, les débris s'assemblaient en arcs de flammes et de foudre et formaient comme un dais brillant au-dessus des vaisseaux. Une bonne partie d'entre eux échappait toutefois au système de défense et allait directement se fracasser contre les appareils, causant de graves dégâts et allant même jusqu'à leur faire perdre leur capacité de navigation. La collision avec des morceaux de plus grande taille se révélait quant à elle fatale. Malgré l'effondrement du système de commandement de la flotte, l'état-major commença à donner des directives aux vaisseaux dispersés, mais en raison de la densité de la formation, il ne put empêcher le télescopage de certains vaisseaux. L'Himalaya et le Thor se percutèrent ainsi à grande vitesse et se changèrent en un instant en un amas de débris. Le messager tamponna pour sa part l'arrière du Genèse et l'air libéré par le trou fait dans la coque souleva un ouragan qui projeta tout l'équipage et leur équipement dans l'espace, dessinant une longue queue à sa poupe. Les scènes les plus atroces eurent lieu sur le Einstein et l'été, dont les commandants contournèrent le système de surveillance et passèrent les vaisseaux en mode téléguidage avant de donner l'ordre avant toute. Mais à cet instant, aucun des membres de l'équipage ne se trouvait en état de mer profonde. Les images transmises par l'été montrèrent un hangar sans chasseurs mais occupé par plus d'une centaine de personnes qui furent plaquées au sol sous l'effet de l'hypergravité. À ce moment-là, des fleurs de sang s'ouvrirent sur une surface blanche de la taille d'un stade de football, puis elles commencèrent à se répandre en couches plus fines jusqu'à se rassembler en un seul parterre. Le plus horrible se passa à l'intérieur des cabines sphériques. Les occupants furent projetés jusqu'au fond de la cabine par l'hypergravité, puis la main d'un démon les écrasa en bouillie et malaxa leur corps comme s'ils étaient agis de figures d'argile. Ils n'avaient pas eu le temps de hurler qu'avait retenti le son des giclures d'organes et du broiement des os. Puis les tas d'ossements et de chair furent engloutis par le sang, qui devint sinistrement clair lorsque l'hypergravité eut sédimenté toutes les impuretés. Sous l'intensité de cette force, les flaques de sang ne furent bientôt plus que des surfaces miroitantes, plates et immobiles, comme si elles étaient devenues solides. Les tas d'os, de chair et d'organes étaient emprisonnés en elles comme des rubis dans du cristal. Plus tard, on commença par croire que le Einstein et l'été étaient passés en mode avant toute en raison de mauvaises manipulations commises sous le coup de la panique. Mais des investigations plus approfondies réfutèrent cette théorie. Le passage en mode avant toute nécessitait une série d'opérations trop longues et trop complexes pour que cela pût avoir été une simple erreur. Grâce aux informations transmises par les deux vaisseaux, on apprit aussi qu'avant d'accélérer, le Einstein et l'été avaient évacué une partie des membres de l'équipage dans des chasseurs et de plus petits appareils. Ils n'étaient entrés en mode avant toute qu'à l'approche de la gouttelette, au moment où les vaisseaux voisins avaient explosé. Ils avaient de toute évidence tenté de sauver les deux vaisseaux de l'attaque de la gouttelette. Mais ni l'un ni l'autre ne purent échapper à ces serres infernales, car ce petit dieu de la mort aux yeux acérés s'aperçut vite que deux vaisseaux accéléraient à une vitesse bien supérieure à la moyenne des autres et fondit rapidement sur ces citadelles sans vie. Deux vaisseaux passés en mode avant toute réussirent néanmoins à échapper à la tuerie. Le Quantum et l'Âge de Bronze, qui étaient entrés en état de mer profonde avant le début de la bataille, sur les conseils de Dingy. Dès l'instant où la troisième rangée de la formation avait été détruite,
les commandants des vaisseaux avaient donné l'ordre avant toutes et fui dans la même direction. Grâce à leur position relativement marginale dans la matrice, ils bénéficièrent d'un temps suffisant pour s'échapper dans les profondeurs de l'espace. En 20 minutes, plus d'un millier de vaisseaux, soit la moitié de la flotte unie, avaient déjà été détruits. L'espace était rempli de débris qui formaient un nuage métallique de 100 000 km et ne cessait de s'étendre. Les boules de feu nucléaire illuminaient ses contours pâles, comme si le visage froid d'un géant clignotait par intermittence dans la nuit cosmique. Entre deux boules de feu, les rayons du magma métallique transformaient le nuage en un crépuscule rouge sang. Les vaisseaux restants étaient éparpillés, mais presque tous se trouvaient au cœur du nuage métallique. La majorité d'entre eux avaient déjà épuisé les munitions de leurs canons électromagnétiques et ne pouvaient plus compter que sur leurs lasers pour se frayer un passage à travers le nuage. Mais en raison de l'importante dépense d'énergie, les armes avaient perdu de leur puissance. Les vaisseaux étaient contraints à ralentir et à essayer de se faufiler tant bien que mal entre les fragments. Beaucoup d'entre eux se déplaçaient désormais à une vitesse presque équivalente à celle de l'expansion du nuage métallique, devenu un piège mortel d'où il était impossible de s'enfuir. La vitesse de la gouttelette était maintenant 10 fois supérieure à la troisième vitesse cosmique, soit environ 170 km par seconde. Dans sa course folle, elle percutait des débris qui se liquéfiaient aussitôt et fusaient de tous côtés avant d'entrer en collision avec d'autres débris, ébauchant un sillage étincelant derrière elle. Ce fut au début comme une comète hérissée de colère, mais à mesure que le sillage s'étirait, la gouttelette devint un gigantesque dragon argenté long de plus de 10 000 km. Le nuage métallique rayonnait au rythme de la chorégraphie folle de la créature. Les vaisseaux étaient transpercés un à un par la tête du dragon et explosaient le long de son corps, si bien qu'à chaque instant, celui-ci se mettait à luire de 4 ou 5 petits soleils de fusion nucléaire. Loin derrière, les vaisseaux fondus se muaient en éruption de magma métallique qui teintait sa queue d'une diabolique couleur sanguinolente. 30 minutes plus tard, le gigantesque dragon rutilant volait encore. Mais les boules de feu avaient disparu de son corps et sa queue avait perdu sa coloration carmin. Plus aucun vaisseau ne se trouvait dans le nuage métallique. Le dragon prit son envol et, arrivé aux confins du nuage, il s'évanouit de la tête à la queue. La gouttelette commença alors à nettoyer les débris de vaisseaux traînant encore au-delà du nuage. Seuls 21 d'entre eux étaient parvenus à s'en échapper, mais les dégâts qu'ils avaient subis limitaient leur capacité d'accélération. La gouttelette eut au fait de les rattraper et de les détruire. En explosant, ceux-ci façonnèrent dans l'espace de nouveaux nuages métalliques qui se boursouflèrent et fusionnèrent bientôt avec le plus grand. La gouttelette mit un certain temps avant de finir d'anéantir les 5 vaisseaux encore en état, car ils avaient déjà réussi à prendre de la vitesse et s'étaient échappés dans des directions différentes. Quand elle rattrapa et désintégra le dernier d'entre eux, l'Arche, celui-ci se trouvait déjà loin du nuage métallique. La boule de feu née de son explosion et dont l'éclat ne dura pas plus de quelques secondes fut comme une lanterne solitaire soufflée par le vent d'un désert. Les forces spatiales humaines avaient été anéanties. La gouttelette accéléra dans la direction où avaient fui le Quantum et l'âge de bronze, mais elle abandonna vite la poursuite, ses deux cibles se trouvant déjà beaucoup trop loin. Ces deux vaisseaux furent donc les seuls rescapés du massacre. La gouttelette quitta le champ de bataille et fit cap vers le système solaire. Outre l'équipage des deux vaisseaux encore intacts, quelques survivants humains étaient arrivés à échapper à la tuerie en fuyant à bord de chasseurs ou de petites navettes avant que la gouttelette n'entre en collision avec leur vaisseau mère. Celle-ci aurait bien sûr pu les pulvériser sans effort, mais elle n'avait accordé aucun intérêt à ces petits appareils. La menace la plus grande pour ces petits engins avait donc été les fragments métalliques volant à grande vitesse. Dépourvus de tout système de défense, ils étaient particulièrement vulnérables en cas d'impact. Plusieurs avaient ainsi été détruits peu de temps après avoir quitté les vaisseaux. Leur meilleure chance de survie avait été au début et à la fin de l'attaque.
au début car le nuage métallique ne s'était pas encore formé, et à la fin car celui-ci était devenu moins dense du fait de son expansion. Les navettes et les chasseurs qui avaient eu la chance d'en réchapper planèrent pendant quelques jours au-delà de l'orbite d'Uranus et finirent par être secourus par des appareils civils en service dans le secteur. Le nombre total de rescapés n'atteignit pas plus de 60 000 individus, parmi lesquels les deux hibernautes qui avaient les premiers émis un jugement juste au sujet de l'attaque de la gouttelette, les sous-officiers Chao Xin et Li Wei. Ce morceau d'espace redevint silencieux. Le nuage métallique perdit son éclat dans le froid glacial de l'univers et se fondit dans l'obscurité. Plus tard, sous l'effet de la gravitation solaire, le nuage cesserait son expansion et commencerait à s'allonger en un long cordon qui deviendrait finalement une fine ceinture métallique tournant autour du soleil, comme si des millions d'âmes ne parvenant à trouver le repos flottaient pour l'éternité aux confins glacés du système solaire. La destruction de l'intégralité des forces spatiales humaines n'avait été l'œuvre que d'une petite sonde trisolarienne, et 9 autres arriveraient 3 ans plus tard dans le système solaire. Ensemble, ces sondes ne faisaient qu'un 10 000e de la masse d'un vaisseau, et 1000 d'entre eux étaient aussi en route vers le système solaire. « Je te détruis. Est-ce que cela te regarde ?»